Ce soir, nous voulons considérer l'évangile et les discriminations. Alors, bien sûr, vous auriez compris que cela est un thème d'actualité, compte tenu des événements qui se sont produits il n'y a pas très longtemps aux USA et qui ont provoqué un mouvement contre le racisme un peu partout sur notre planète. Et bien sûr, nul n'est insensible à ce qui se passe et nous aimerions tous, bien sûr, ne plus voir de telles images qui reflètent vraiment quelque chose de pas toujours sain, pas toujours correct. Et donc, il faut dire que ce qui se passe parfois est grave, est ignoble et doit être même aussi condamné. Cela suscite beaucoup d'émotions, mais je crois que nous devons faire attention à l'émotion souvent parce que l'émotion est parfois mauvaise conseillère. Donc il faut lutter peut-être contre la tentation d'être dans la réaction immédiate et ou alors se sentir obligé de choisir un peu son camp. Et l'ampleur des manifestations auxquelles on a assisté ces derniers temps témoigne de l'acuité vraiment encore du problème du racisme et des discriminations dans notre société. Dans un rapport annuel en juin, le 18 juin cette année, je crois, la Commission nationale consultative des droits de l'homme souligne que tel un virus, le racisme mute et chaque mutation le rend plus dangereux. C'est une citation donc de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc la construction de la notion de race est apparue à peu près au XVIIIe siècle et certains philosophes et penseurs de cette époque-là se sont appuyés sur des travaux, des arguments scientifiques pour développer l'idéologie raciste. Et dans le Larousse, je cherchais la définition de ce mot et c'est écrit, donc de Larousse pour le racisme, c'est écrit idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, et puis aussi ça décrit le comportement qui est inspiré par cette idéologie. Et il ajoute donc, parfois on décrit par le racisme l'attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc cette catégorie peut être déterminée soit par la couleur de sa peau, soit par sa provenance, soit par sa religion, soit par sa culture, etc. Donc face à la situation sociale mouvementée que nous connaissons, eh bien on voit que les réactions dans le monde sont vraiment radicales et je crois qu'il est bon de se poser un petit peu, en tout cas en tant que chrétien, la question de la discrimination d'un point de vue biblique ici. Et donc et cela est d'autant plus important que certains ont prétendu pouvoir trouver dans la Bible des justifications à l'idéologie raciste ou à la discrimination ou à l'esclavage ou à des choses comme cela. On parle, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela, de la malédiction de Cham en Genèse chapitre 9 et chapitre 10. Alors le temps nous manque pour développer ces choses ici, c'est pas ce que je veux faire ce soir. Vous pouvez trouver d'ailleurs beaucoup de bonnes études qui démontrent l'absence de fondement de cette idéologie, de cette théorie qui est utilisée pour soutenir l'esclavage ou bien l'infériorité des Noirs, par exemple. Ce que nous voulons faire néanmoins, c'est que nous voulons regarder la Bible, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous voulons regarder ce que la Bible dit face aux discriminations et au racisme. Il est important pour nous de souligner d'abord, et ce que je veux faire ce soir, dans un premier temps, et puis la prochaine fois, on verra peut-être de manière plus pratique l'attitude que nous devons avoir, d'après les Écritures, face à des événements comme ceux que nous vivons, ou des ressentiments que nous pouvons avoir, etc. Mais ce soir, je voudrais voir, peut-être souligner quelques vérités fondamentales qui sont contenues dans l'Écriture, des vérités générales dans l'Écriture. Premièrement, souligner que L'Évangile ou l'Écriture affirme l'unité de la race humaine. L'Évangile affirme l'unité de la race humaine. L'Écriture, la Bible affirme l'unité de la race humaine. Tous les hommes, les humains sont issus d'une seule et même origine, une seule famille. Et je vous invite à lire le discours que Paul fait à Athènes, Actes chapitre 17. Donc dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul parle devant un parterre de philosophes stoïciens et épicuriens. Et puis, il était invité à parler de cette nouvelle doctrine qu'il semblait présenter. Et à partir du verset, nous allons lire Actes chapitre 17, et à partir du verset 22, on voit que Paul est debout ici au milieu de l'aréopage et qu'il parle aux Athéniens qui se trouvent là. À partir du verset 24, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Et au verset 25, il dit « Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui lui qui donne la vie à tous. » Donc première chose, il dit ici que Dieu donne la vie à tous, donne la respiration et toutes choses. Verset 26, il dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Et puis, au verset, je saute un petit peu pour aller plus vite, mais au verset 29, il va citer même un de leurs penseurs et il dit, ainsi donc, verset 28 par exemple, il dit, « Car nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » Donc Paul souligne vraiment ici, au vu de ces philosophes athéniens, que Dieu qui a fait toutes choses a fait l'homme, a créé l'homme, et que tous les hommes sont sortis d'un même sang. Ils habitent bien sûr sur divers endroits de la planète, mais ils sont issus de même sang. Nous avons tous le même, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Genèse 3, verset 20, il dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Et donc tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur physionomie, eh bien, sont issus d'une même famille, d'une même origine. Alors certes, il y a des différences parmi les hommes, il y a diversité ethnique, il y a diversité de couleurs, il y a diversité de morphologie, il y a diversité de cheveux, et puis on peut rajouter plein d'autres choses, mais toutes ces diversités ne constituent absolument pas une différence de race. Ici, la race humaine est une, ce que nous voyons dans l'Écriture. Les hommes ont tous la même origine, sont créés à l'image de Dieu. Et Jacques, l'épître Jacques le souligne ici, quand Jacques parle de ce que nous disons, nous pouvons proférer avec notre bouche des bénédictions ou des malédictions. Et il dit « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, mais aussi par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. » Donc tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. Donc toute discrimination raciale ou autre, ou culturelle, ou qui se base sur la physionomie extérieure, sur le rang, sur le rang social, sur autre chose, est purement arbitraire et superficielle. Et n'a pour fondement que les différences physionomiques que l'on peut voir les uns des autres. Toute discrimination est donc une négation, on pourrait dire, de la réalité qui concerne l'origine humaine et que nous voyons révélée ici dans l'Écriture, dans la Bible. Ça, c'est la première chose. Donc, l'Évangile soutient vraiment l'unité de la race humaine. Deuxièmement, l'Évangile affirme l'égalité de tous les hommes face au péché. Ça, c'est quelque chose qui est d'une grande importance. Dans Romains chapitre 3 et au verset 22 et 23, nous lisons « Il n'y a point de distinction parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors peut-être que nous voyons des différences, nous supposons que un tel, de par sa morphologie ou de par sa couleur, il a quelque chose peut-être de fondamentalement différent d'un autre ici. Mais l'Écriture souligne ici un fait, c'est que tous les hommes sont dans l'égalité devant Dieu en ce qui concerne leur état de pécheur. Et il dit, il n'y a point de distinction. C'est vrai que nous aimons parfois nous insister sur nos particularités. Nous aimons nous regrouper parfois par ethnie, par langue, etc. Nous tirons même parfois gloire de ce qui nous distingue des autres. Et même nous pensons que notre langue, notre culture, nos coutumes, eh bien, sont mieux que celles des autres. Certains insistent même sur leur héritage religieux, sur leur descendance, etc. Mais tout ceci ne fait aux yeux de Dieu aucune différence. Et Dieu ne regarde pas les hommes par leur différence extérieure, par leur différence basique, par leur couleur, par leur morphologie, par leur rang, etc., mais à leur état spirituel devant lui. Et là, l'apôtre Paul, dans ce passage que nous disons en Romains chapitre 8, elle est sans distinction de rang social, sans distinction de sexe. Le péché qui caractérise l'homme et dans lequel l'homme se trouve témoigne que tous les hommes sont sur un même pied d'égalité devant Dieu à cause de ce qu'ils sont fondamentalement dans leur nature, à cause du fait qu'ils sont des pécheurs. Donc sans distinction, tous sont sous l'empire du péché, qu'ils soient religieux, qu'ils soient athées, qu'ils soient agnostiques, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient patrons, qu'ils soient ouvriers, sans distinction, ils sont tous privés, dit l'Écriture, de la gloire de Dieu à cause du péché. Ainsi, il n'y a pas de supériorité ethnique, il n'y a pas de supériorité d'une ethnie par rapport à une autre. Et lorsque nous sommes tentés de nous croire meilleur que l'autre, parce que nous ne sommes pas faits pareil, ou parce que nous vivons une région particulière de la planète, ou parce que nous avons des moyens technologiques plus avancés qu'un autre endroit, eh bien, nous devons nous souvenir de ceci, que l'Écriture nous dit qu'en réalité, nous sommes aussi pécheurs les uns que les autres. Aussi pécheurs devant Dieu les uns que les autres. Il n'y a aucune différence. Il y a égalité parfaite dans cet état-là. Ça, c'est la seconde chose, donc je voulais souligner. Troisième chose aussi, troisième vérité générale, on pourrait dire, c'est que l'Évangile affirme la nécessité de la réconciliation avec Dieu pour tous les hommes. D'accord ? Donc, l'Évangile affirme l'unicité, hein, de la race humaine. Elle affirme aussi que tous les hommes sont égaux devant Dieu concernant leur état spirituel de pécheur. Et donc, on n'a pas à croire que l'on est meilleur que les autres, mais elle affirme aussi que tous les hommes ont la nécessité, ont le besoin de se réconcilier avec Dieu. Et par là même, par conséquence, on va le voir, les uns avec les autres. Alors si on lit dans le passage que j'ai lu en Actes, ici, un peu plus loin, après, quand l'apôtre Paul termine presque à la fin de son exposé, devant ses philosophes, et verset 29, il dit « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous n'avons pas à croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de l'or, de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Donc Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et donc Dieu ne fait pas de distinction dans l'Écriture. Tous les hommes ont péché, tous les hommes ont besoin de se repentir. Alors certes, le racisme ou la discrimination se base sur la perception visuelle que l'on a les uns des autres, et puis ce que l'on attache aussi surtout à ces perceptions visuelles. Mais en fait, l'Écriture nous montre que le rejet de l'autre et la haine de l'étranger ou le rejet de l'autorité, par exemple, a pour fondement le rejet de Dieu, ce qu'on appelle le péché. Et donc, l'inimitié contre Dieu entraîne l'inimitié contre les autres. Ce que nous vivons actuellement d'inimitié que les uns, d'aversion que les uns peuvent avoir pour les autres, et dans quelques cas que ce soit, découle du fait du rejet de Dieu. Et nous avons l'illustration de cela dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas ? Lors du péché d'Adam et Ève, le premier couple desquels nous descendons, eh bien, il y a eu rupture de relation avec Dieu, et il y a eu aussi rupture de relation entre l'homme et sa femme, d'une certaine manière, puisqu'on a vu arriver les premières accusations d'Adam à l'égard de Ève. Et puis aussi, il y a eu le meurtre de Caïn envers Abel. Donc le péché, c'est-à-dire le rejet de Dieu et de sa parole, est la cause de tous les troubles que nous vivons, y compris aussi le racisme. Le péché dans le cœur de l'homme intensifie et exacerbe toutes les distinctions naturelles et dresse vraiment des barrières ou des murs de séparation. La couleur de la peau, le niveau social, la langue, le pays d'où l'on vient, ces choses prennent des valeurs considérables à cause du péché, de l'orgueil qui règne dans nos cœurs. Et on peut dire que le péché est le grand diviseur de ce monde. Alors, c'est là qu'il faut chercher la cause de tous les problèmes que nous avons. Mais l'Évangile affirme donc que cette désunion, cette inimitié qui existe entre les hommes peut être résolue à condition que la réconciliation avec Dieu, bien sûr, soit établie. Et c'est ce que nous trouvons ici lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Et nous trouvons l'idée de cette réconciliation encore dans Éphésiens chapitre 2, que je vous invite à lire. Éphésiens chapitre 2, où il est écrit à partir du verset 14, Éphésiens chapitre 2, verset 14, où l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 2, et je lis à partir du verset, pas 14, mais un peu plus bas, je crois. Je ne sais pas bien. Ah, mais je ne suis pas dans Éphésiens, c'est pas que je ne comprenais pas, je suis dans Philippiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et l'apôtre Paul, même au verset 11, déjà, il dit: c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous de ce que vous étiez. Il parle aux chrétiens, il dit voilà ce qu'ils étaient en ce temps-là: privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, et cela que c'est, je voulais souligner, vous qui jadis étiez éloignés, il y avait une discrimination, on pourrait dire, entre les deux, entre les juifs d'un côté et puis les païens de l'autre, il dit: vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc l'apôtre Paul souligne vraiment cette inimitié qui existait et qui était l'inimitié fondamentale, vraiment, on pourrait dire là, c'était du racisme, de la discrimination entre les deux peuples, ici entre les juifs d'un côté et puis les païens de l'autre. Et il symbolise cette inimitié par un mur, il dit qu'il y avait un mur de séparation qui représente cette hostilité, cette inimitié qui existait entre juifs et païens. Certainement, il fait référence au temple et à Jérusalem, avec ses multiples, on pourrait dire, murs de séparation. Et ce temple avait été construit par Hérode et comportait une enceinte appelée le parvis des gentils, le parvis des païens, si vous voulez. Et donc c'était la cour la plus extérieure, cette partie-là était séparée de celle des juifs. Et donc, ce mur, on pourrait dire, cristallisait la haine et l'hostilité qui existait entre ces deux groupes de personnes. C'était le mur de séparation, on pourrait dire, le mur de la discrimination, le mur de discrimination. Mais il ajoute que par le sacrifice de Christ, que Christ a accompli à la croix du calvaire, eh bien, ce mur a été renversé. Et la paix et la réconciliation a été rétablie. Regardez comment il dit cela. Hein. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, verset 15, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et les prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Donc une réconciliation à la fois avec Dieu, une réconciliation aussi entre les deux, juifs et grecs. Il dit ici que Dieu constitue ici un seul corps. Si nous avait été demandé de rétablir l'équilibre entre juifs et païens, peut-être nous nous serions arrangés pour que les seconds, les païens, puissent parvenir aux mêmes avantages que les juifs. Au pire, que chacun puisse vivre tranquillement côte à côte malgré leurs différences. Et c'est ainsi qu'on règle les choses en général dans notre société, dans la vie humaine. On se bat pour avoir les mêmes droits qu'eux. Et une ethnie veut avoir les mêmes droits que cette ethnie, même considération. On parle d'égalité dans le travail, d'égalité homme-femme. Tout le monde se bat pour que les droits soient les mêmes ici. Mais ce que Paul dit est bien plus grand ici. Il ne dit pas que Dieu va hisser les païens au niveau des juifs, mais que Dieu a abattu le mur de séparation et les a unifiés tous les deux en un seul homme. Il les a réconciliés de telle sorte qu'ils ne constituent plus deux, mais ils constituent un seul homme, un seul corps. Donc il les place dans son corps qui est l'Église. Et donc il dit, je vais les réconcilier ensemble dans un seul corps, les réconcilier l'un avec l'autre et les réconcilier avec Dieu. Donc la réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Christ accompli à la croix du calvaire a pour effet la réconciliation aussi des hommes entre eux. C'est ce que nous voyons avec ce passage-là. Il y a un lien entre la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec les hommes. Il y a quelque chose qui doit se passer d'abord verticalement avant de pouvoir se passer horizontalement. Et la difficulté que l'on a, c'est qu'on essaye toujours de travailler de manière horizontale et on a abandonner l'aspect vertical, c'est-à-dire la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Et souvenez-vous des pharisiens, lorsqu'ils ont posé à Jésus cette question, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, dit Jésus. Et puis il ajoute, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ici. Et donc, ces deux choses vont ensemble. Aimer Dieu et aimer son prochain, comme soi-même. Il y a un aspect vertical et puis après un aspect horizontal. L'amour pour le prochain n'est véritablement possible et profond que s'il y a amour aussi pour Dieu et envers Dieu. Le docteur Martin Lloyd-Jones souligne cela à propos de ce verset de Matthieu 22 qu'on vient de lire. Il dit ceci, il dit que la plus grande tragédie dans notre monde moderne, c'est que l'homme a rejeté complètement la première relation et tente d'établir la seconde, mais il ne le peut pas. L'homme a rejeté la première relation, celle qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur et il veut établir la seconde. Et c'est ce qu'on voit dans notre société. On se bat beaucoup pour l'égalité, pour toutes ces choses, pour l'absence de discrimination et autres. Mais on a oublié le premier aspect, la première chose qui doit être établie, c'est la réconciliation avec Dieu. Et la Bible ne fait pas de discrimination. Elle appelle tous les hommes à se réconcilier avec Dieu. Et ainsi, ils pourront être réconciliés les uns avec les autres. Et le théologien Henri Blocher dit ceci, il dit « La réconciliation avec Dieu est la clé de la réconciliation entre les humains. » La réconciliation avec Dieu est la clé de la réconciliation avec les humains. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire « Donc maintenant, il n'y a plus, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et donc la puissance de la réconciliation est dans le sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix du calvaire. Seul l'évangile renverse véritablement les discriminations. Et donc, chers frères et sœurs, chers amis, le plus grand besoin de l'homme n'est pas que ses différences soient acceptées ou que ses droits soient reconnus. C'est bien quand cela peut être fait, mais le plus grand besoin, c'est le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il n'y aura pas de véritable réconciliation entre les hommes s'il n'y a pas la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et beaucoup de gens luttent pour cette acceptation et toutes les différences, même celles les plus contre nature, bien souvent. Mais ce n'est pas ce qui amènera paix et réconciliation, malheureusement. Être régénéré est ce qui assure la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Alors en conclusion, je dirais ceci, c'est que l'Évangile ne parle jamais d'infériorité d'une race ou, enfin, d'un peuple, je veux dire plutôt, ou d'une ethnie ou d'une personne par rapport à l'autre. L'Évangile ne se base jamais sur les différences ethniques, les différences de couleur ou autres pour qualifier quelqu'un. Vous pouvez lire la parole de Dieu, vous n'allez pas trouver cela. L'Évangile met en évidence l'œuvre universelle de Dieu. Elle montre combien cette œuvre est grande et combien Dieu s'est acquis un peuple de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Montre l'universalité donc, de ce message et montré dans les Écritures. Et quand on lit Apocalypse, on voit le cantique qui est chanté, le cantique nouveau qui est chanté dans le ciel. Et il dit ceci, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, parlant de Jésus-Christ, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu appelle tous les hommes, on l'a lu dans Actes chapitre 17, verset 30, tous les hommes à se repentir. Il appelle tous les hommes à rétablir cette relation avec lui, tous les hommes à se réconcilier avec lui. Ça, c'est le point de départ. Et donc, l'Écriture affirme l'unicité de l'homme, l'Écriture affirme aussi que les hommes sont égaux devant Dieu, considérant leur état de pécheur, mais l'Évangile affirme aussi que tous les hommes sont appelés à la réconciliation avec Dieu, qui amènera la réconciliation les uns avec les autres. Alors que le Seigneur nous aide dans cela, la prochaine fois nous essaierons de voir un peu plus particulièrement comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réagir dans des circonstances comme celles que nous vivons, comment nous devons vivre les uns avec les autres, parce que quand on réfléchit bien, on a des pensées, parfois déjà, des stéréotypes de comportement qui font que, même en tant que chrétien, on peut avoir des attitudes discriminantes des uns par rapport aux autres. Il est important de considérer ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Que le Seigneur nous aide donc à considérer les choses. La Bible et la parole de Dieu, elle ne fait aucune discrimination, aucun acte de préférence envers les hommes. Dieu est celui qui ne fait pas exception de personne, mais qui parle à tous les hommes, qui a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, qui, devant lequel tous les hommes sont égaux quant à leur état de pécheur, mais aussi Dieu appelle tous les hommes à cette unité, cette relation avec lui et cette unité aussi les uns avec les autres. Donc si nous voulons lutter vraiment contre les discriminations, il nous faut considérer profondément ce que la parole de Dieu nous enseigne. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Et je te prie que la pression sociale ou que ce qui se passe dans le monde ne vienne pas obstruer la vérité de ta parole. Nous avons besoin de réfléchir, de penser avec tes pensées, de nous laisser imprégner par les vérités de ta parole, Seigneur, et pas par ce que nous pouvons ressentir comme sentiment ou que nous pouvons transporter à cause de notre vécu ou à cause du vécu de l'ethnie à laquelle nous appartenons, Seigneur. Nous te prions que tu nous donnes de considérer vraiment ces vérités fondamentales de ta parole. Nous avons tous été créés en Adam, Seigneur, et la race humaine est une. Que nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous sommes tous des pécheurs. Pour certains d'entre nous sauvés par grâce, mais nous sommes tous, Seigneur, des pécheurs. Et je te prie vraiment que tu fasses pénétrer profondément ces vérités au-dedans de notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de saisir qu'il est important que nous nous réconcilions avec toi. Seigneur, qu'il n'y aura pas de véritable amour les uns envers les autres, à moins qu'il y ait un amour, qu'il y ait ton amour qui soit répandu dans nos cœurs par ton esprit. Et qu'il n'y aura pas une véritable réconciliation, Seigneur. L'histoire le montre, à moins que nous ne soyons réconciliés avec toi. Seigneur, guide-nous et fais pénétrer ces pensées au-dedans de nous, à la gloire de ton nom. Amen. Oui.